L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a un sujet qui peut paraître simple, voire léger, et c'est la galanterie. Et en fait, en écoutant France Inter, j'ai entendu une rubrique sur un bouquin qui était sorti sur la galanterie, fait par un sociologue, historien. Et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de rentrer dans le détail de ce qu'est la galanterie, parce que ça fait débat, que tout le monde en parle sans vraiment maîtriser ce terme. Et donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec Alain Viala. Donc, c'est un épisode qui dure une trentaine de minutes, qui va vous permettre de mieux comprendre sur les 400 dernières années comment ce concept, ce mythe s'est construit, comment il s'est développé au fur et à mesure des années. Et vous verrez que ce n'est pas du tout linéaire. Une conversation dense, mais en même temps très intéressante. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Donc bonjour Alain Viala.
Bonjour.
Donc vous êtes historien et sociologue.
Et littéraire.
Sociologue de la littérature, d'ailleurs. Si
oui, entre autres, oui.
Et vous venez d'écrire un livre sur la galanterie. La galanterie qui est un sujet qui fait débat depuis 400 ans.
Oui.
Pourquoi avoir choisi d'écrire un bouquin sur ce sujet-là en particulier?
C'est une longue, vieille histoire.
Ouais.
Ça fait des années et des années. Alors, ça a commencé comme ça, comme le littéraire que je suis. C'est poser des questions parce que je suis notamment spécialiste de Racine et du XVIIe siècle. Et j'ai été, comme tout le monde de ma génération, formé à l'idée que le XVIIe siècle, c'était le siècle classique. Et je me suis aperçu que le mot classique n'est jamais employé à cette époque-là. Par contre, qu'il y avait des foules de gens qui disaient qu'ils étaient galants ou qui trouvaient que tel ou tel auteur, tel ou tel comportement ou tel tableau était galant. Donc il y avait plein de galants et jamais classique. Je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait recouvrir. Et puis, ça a commencé comme ça en 89. Donc ça fait effectivement une très longue histoire pour moi. Mais il fallait bien cette longue histoire pour avoir le temps de passer en revue 400 ans. 400 ans de débat, parce que c'est un mot qui, dès le début, est un mot qui fait l'objet de conflits.
Et alors justement, je crois que on a du mal à définir ce que c'est que la galanterie. Souvent, on le confond avec de la politesse. Souvent, c'est lié à la relation amoureuse. C'est aussi un courant artistique. Donc, en fait, c'est un peu tout ça, ce que vous expliquez dans votre livre. Est-ce que vous avez une manière de définir ce que c'est que la galanterie?
Un style qu'on trouve dans la politesse, qu'on trouve dans des pratiques artistiques et qu'on trouve dans une part de la morale amoureuse. Un style, donc une manière de faire. Et un style qui concerne avant tout, là je vais parler en sociologue, des choses du loisir.
D'accord.
La galanterie, ça s'exerce pas d'abord dans les activités militaires, professionnelles, religieuses, juridiques. Ça s'exerce dans la sociabilité. Donc, voilà, on peut dire c'est un style de sociabilité, mais je fais attention de pas dire quel style. Puisque c'est un objet qui a fait débat pendant très longtemps. Si on pose une définition d'emblée, on installe un dogme à ce sujet, alors que ce qui m'intéressait, c'est que ça soit un objet de débat.
Oui, parce qu'en fait, dans votre livre, vous ne prenez pas position. En fait, vous essayez d'ouvrir au possible, de permettre aux personnes de s'approprier finalement ce concept.
Moi, je suis un chercheur. J'ai essayé de faire un livre qui soit conforme à la déontologie du chercheur. Si le chercheur a une opinion préétablie, bah, il cherche plus.
Il l'a
plutôt,
trouvé.
Il ne trouve que ce qu'il a déjà dans la tête. Donc, en posture de chercheur et en même temps respectueux du statut qui est le nôtre, on nous paie pour faire de la recherche, c'est une chance. Mais il faut que ça soit utile à la collectivité. La collectivité, des propositions d'opinion, elle en a des montagnes sans arrêt. En revanche, donner de l'information, c'est peut-être un travail qui justifie cette utilité pour la collectivité. Et puis, c'était amusant aussi, en partie pour moi, de travailler sur, de façon aussi méthodique et rigoureuse que possible, sur ce qui apparaît d'emblée comme un petit sujet. Alors, la galanterie, c'est quoi? C'est tenir la porte quand on est un monsieur bien élevé pour laisser passer les dames. C'est faire des compliments un peu dragueurs peut-être aux dames. C'est un style de peinture à la Watteau. C'est un opéra de Lully ou de Rameau. Mais ça reste des petits sujets. Ça n'est pas la famine, ça n'est pas les épidémies, ça n'est pas le changement climatique, ça n'est pas la façon dont le capitalisme ravage le monde aujourd'hui. Donc ça semblait un petit sujet et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vaut la peine de tricoter et détricoter ce petit sujet?
Et alors pourquoi ça fait débat et pourquoi, dans ce que vous dites, c'est que ça a des enjeux sociétaux, culturels et politiques? Enfin, si c'est un petit sujet, pourquoi ça fait autant débat? Pourquoi aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que c'est du sexisme bienveillant, par exemple ou...
Et du sexisme malveillant, peut-être
malveillant,
aussi.
Bien sûr.
Pourquoi ça fait débat? Parce que ça a fait débat dès le début, d'une part, et d'autre part, parce que ça a pris une tournure particulière dans le cas de la France. On peut dire qu'il y a ces deux paramètres à la fois. D'une part, dès le début, historiquement, il y a eu deux facteurs qui sont entrés en ligne de compte. On fait deux minutes d'histoire pour caler les choses. Ouais. Alors, il y a de très longues traditions, évidemment, en matière de politesse, en matière de relations amoureuses, de relations entre les sexes plus largement, et en matière de style artistique. Mais avec un héritage en Europe qui est celui de la courtoisie au Moyen-Âge, il s'est passé quelque chose vers le milieu du XVIIe siècle. Milieu du XVIIe siècle, d'un moment où la France a vécu une longue période de guerre de religion. La France et l'Europe, mais spécialement la France, qui à cette époque est la plus grande puissance d'Occident. Et le pays a besoin de se réorganiser, l'État a besoin de se réorganiser, les élites religieuses ont été embarquées dans les guerres de religion, les élites aristocratiques se sont rebellées, restent donc des nouvelles élites à inventer. Et il y a un bouillonnement de gens instruits dans la bourgeoisie, dans la petite noblesse, qui sont en voie de promotion sociale. Ce sont des gens instruits, donc ils cherchent un style qui soit celui des gens qui ont de la culture, de l'instruction. Il y en a plusieurs possibles, mais ils en cherchent à eux. Et en même temps, se produit à ce moment-là, en France notamment, un mouvement de revendication de droit à la parole pour et par les femmes. C'est le moment où des femmes comme Madame de Villedieu... Pourquoi on dit « Madame » ? Quand on parle des personnages masculins, notamment des écrivains masculins, on donne toujours leur prénom. Et souvent, quand on parle des écrivaines, on dit madame ou mademoiselle. Donc, c'est non, vrai. Marie-Catherine de Villedieu ou Madeleine de Scudéry, par exemple, manifestent une volonté de prendre la parole, prendre la plume, à un moment où c'est très mal vu qu'une femme ose publier. La conjonction des deux a donné un style de sociabilité à la fois distingué, cultivé, mais tourné vers la, ce qu'on appelle chez les historiens la civilisation des mœurs. Il s'agit de trouver des modes de relation qui soient non pas dans le rapport de force, mais dans le rapport d'agrément mutuel. Voilà, ça a pris cette forme à ce moment-là. Pourquoi est-ce que ça fait débat? C'était la question. Réponse, ben, les misogynes se sont immédiatement fâchés contre la prise de parole féminine que représentait la galanterie. Et comme la galanterie, ça s'intéresse à ce que l'on fait quand on est ici bas dans ce monde, à l'agrément de vivre dans ce monde, les catholiques les plus rigoristes ont trouvé que ça détournait de la voie qui consiste à ne préparer en ce monde que le monde de l'au-delà et la vie éternelle. Donc il y a eu de l'hostilité immédiate. À quoi on peut ajouter, après j'aurai fini les deux minutes historiques,
il n'y a pas de souci.
À quoi on peut ajouter que le régime Louis XIVien et Louis XIV et son équipe, ses conseillers, ont adopté ce style pour les activités de loisirs. Du coup, lorsque se sont manifestées des oppositions à Louis XIV, une des façons de l'attaquer, si ça n'était pas frontalement, c'était de l'attaquer sur son style esthétique. Donc le mot « galant » très vite a pris deux sens contradictoires, celui qui signifie